11. Le pistolero perçut l'approche d'un son, gémissant comme celui de l'air dans les roseaux. Il se crispa un instant, puis reconnut le rythme qui s'y superposait, celui d'un souffle haletant. Alors il se détendit. C'était Eddie. Il le savait sans avoir besoin d'ouvrir les yeux. Quand la plainte s'évanouit et que s'espacèrent les chocs sourds marquant chaque foulée, mais pas les sifflements de la respiration, il consentit à les rouvrir. Eddie était planté devant lui, hors d'haleine et les joues ruisselantes de sueur. Sa chemise trempée était plaquée sur sa poitrine, y dessinant une tache uniformément sombre. Disparus les derniers vestiges du look étudiant bon chic bon genre dont Jay Candolini avait recommandé l'adoption avec tant d'assistance pour mieux abuser les douaniers. Ses cheveux lui pendaient sur le front. Il s'était ouvert la couture du jean sous la braguette et les magnifiques croissants bleus violacés sous ses yeux complétaient le tableau. Un vrai désastre. « J'ai réussi, » dit-il. « Je suis de retour. » Il promena un regard circulaire qu'il ramena ensuite sur le pistolero comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Je suis ici. » « Tu lui as donné le revolver. » Roland était dans un sale état, remarqua Eddie, un état comparable à celui dans lequel il l'avait connu avant la première prise écourtée de Keflex. Peut-être même dans un plus sale état. La fièvre semblait rayonner par vagues brûlantes de ce corps adossé au rocher, et il aurait dû en éprouver de la pitié, il le savait, mais il restait apparemment incapable de sentir monter en lui autre chose qu'une colère noire. « Je me casse le cul pour être de retour ici en un temps record, et tout ce que tu trouves à dire, c'est « tu lui as donné le revolver ». Bravo, mec, je te remercie. J'irai pas dire que je m'attendais à des démonstrations exubérantes de gratitude, mais là, c'est le bouquet. » Je crois avoir dit la seule chose qui ait de l'importance. Puisque tu m'y fais penser, c'est exact. Je le lui ai laissé. Main sur les hanches, Eddie fixait agressivement l'homme à terre. Bon, maintenant ce sera selon les préférences de monsieur. Soit monsieur grimpe dans son fauteuil, soit je le replie, histoire de voir si j'arrive à le fourrer tout entier dans le trou du cul de monsieur. Que choisit monsieur ?
Ni l'un ni l'autre.
Roland sourit un peu, comme quelqu'un qui n'en a pas envie, mais ne peut s'en empêcher.
« D'abord, tu vas dormir, Eddie. On verra ce qu'on verra quand le moment sera venu de voir. Mais pour l'heure, tu as besoin de sommeil. Tu es lessivé. »«
Je veux retourner près d'elle. »«
Moi aussi. Mais si tu ne prends pas un minimum de repos, tu vas t'écrouler en route. Pas plus compliqué que ça. Et ça sera mauvais pour toi, pire pour moi. » Catastrophique pour elle.
Eddie était pris dans un nœud d'indécision.
« Tu as fait vite, » concéda Roland, levant vers le soleil des yeux étrécis. « Il est 16h, 16h15 peut-être. Tu vas dormir 5h, allez, 7, et il fera nuit noire, 4.
Pas plus de 4h.
D'accord. Jusqu'à ce qu'il fasse noir. » C'est ça l'important, à mon sens. Ensuite, tu mangeras, puis on s'en ira.
Toi aussi, il faut que tu manges.
Cette esquisse de sourire, une fois de plus. Je serai.
Ses yeux bleus se posèrent sur Eddie. Tranquille.
Ta vie est entre mes mains, désormais. Je suppose que tu en as conscience.
Oui.
Je t'ai kidnappé.
Je sais.
As-tu envie de me tuer ? Parce que, dans ce cas, fais-le tout de suite, au lieu d'exposer l'un ou l'autre d'entre nous.
Son souffle s'amenuisa, se réduisit à un sifflement grêle, cependant que montaient de sa poitrine des raclements qu'Eddie n'aima guère,
à un surcroît d'inconfort.
Je n'ai pas envie de te tuer.
Alors, cette fois, ce fut une violente et soudaine quinte de toux qui l'interrompit. « Va te coucher. »
Eddie y alla. Le sommeil, loin de l'envelopper de voiles cotonneux, comme il le faisait parfois, le saisit avec les mains brutales d'une amante que le désir rend gauche.
Il entendit, ou peut-être ne fût-ce qu'un rêve, le pistolero dire « Mais tu n'aurais pas dû lui laisser le revolver. » Puis, pour un temps indéterminé, il fut simplement dans le noir. Puis, Roland fut à le secouer, le réveillant. Puis, quand il se fut assis, chaque parcelle de son corps fut douleur, douleur et pesanteur. Une sorte de rouille semblait avoir grippé ses muscles comme les treuils époulies d'un chantier à l'abandon. Sa première tentative pour se mettre debout se solda par un échec. Il retomba lourdement sur le sable. Réussit au deuxième essai, mais eut l'impression que l'élémentaire mouvement de se retourner allait lui prendre 20 minutes et lui faire horriblement mal. Roland l'interrogeait du regard. « Tu es prêt ?» fit le pistolero, formulant la question. Eddie hocha la tête. « Et toi ?»«
Oui. »«
Tu y arriveras ?»«
Oui. »
Ils mangèrent donc, puis Eddie entama son troisième et dernier voyage sur cette maudite longueur de plage. 12. S'ils couvrirent une bonne distance cette nuit-là, Eddie n'en fut pas moins déçu que le pistolero annonça qu'ils allaient s'arrêter. Eddie ne marqua pourtant nul désaccord, tout bonnement trop fourbu pour continuer sans repos. Mais il avait espéré aller plus loin. Le poids. C'était là le hic. Pousser Roland après Odetta revenait à pousser un chargement de baramine. Eddie dormit les 4 heures qu'il leur restait avant l'aube, et quand il s'éveilla, le soleil bondissait par-dessus les croupes érodées, dernier soubresaut des montagnes. Roland toussait. Eddie écouta. Tout sans force et sous-tendu de râles, tout de vieillard que la pneumonie va peut-être emporter. Leurs regards se croisèrent. Le spasme du pistolero se mua en rire.
« Je ne suis pas encore au bout du rouleau, » il dit, « même si c'est l'impression que je donne quand on m'entend. »«
Et toi ?» Eddie pensa aux yeux d'Odette et fit non de la tête.
« Pas encore, moi non plus, mais je ne cracherai pas sur un cheeseburger accompagné d'une mousse. »«
Mousse !» répéta le pistolero, incertain, revoyant les frais vallons du parc royal. Laisse tomber. Allez, en voiture, mec. Ça n'a ni cylindre en V ni vitesse au plancher, mais on n'en abattra pas moins notre paquet de bornes. Ainsi firent-ils, mais au crépuscule de ce deuxième jour après qu'Eddie eut laissé Odetta, il n'en était toujours qu'à se rapprocher de la troisième porte. Eddie se coucha dans l'intention d'effectuer un nouveau séjour de 4 heures dans les bras de Morphée, mais il ne s'en était pas écoulé 2 quand le hurlement d'un de ces chats sauvages l'en arracha le cœur battant. Seigneur, l'animal ne pouvait qu'être énorme! Il vit briller dans le noir les yeux du pistolero qui s'était redressé sur un coude.
« On y va !» fit Eddie, se levant avec lenteur, grimaçant tant c'était un supplice.
« Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda Roland presque en un murmure. Eddie s'étira, suscitant une série de petits bruits secs le long des vertèbres, comme la mise à feu d'un chapelet de pétards minuscules.
« Ouais, c'est-à-dire je préférais que ça soit avec ce cheeseburger dans le ventre. »
« Je croyais que c'était du poulet que tu voulais. »«
Lâche-moi les baskets, mec !» gronda Eddie. La troisième porte était en vue quand le soleil quitta les collines. 2 heures plus tard, il l'avait atteinte. « De nouveau réunis !» pensa Eddie, s'apprêtant à s'écrouler. Mais il se trompait, apparemment. Il n'y avait plus trace d'Odetta Holmes. Plus la moindre. 13.
Odetta !
S'époumona Eddie, la voix aussi éraillée que celle de Detta, l'autre personnalité d'Odette. Pas même un écho, rien. Pas même l'illusion d'une réponse d'Odette. Ce relief lourd, raboté, n'offrait au son nulle surface où rebondir.
Il restait là, suspendu tout entier dans les airs, d'une puissance exceptionnelle dans cet étroit couloir de la grève, fracas de cymbales des vagues déferlantes et grosses caisses du ressac pulsant à l'extrémité du tunnel qui s'était creusé dans la roche friable. Et puis, il y avait aussi la plainte permanente du vent.
« Odetta !»
Cette fois, il hurla si fort que sa voix se brisa sur la dernière syllabe et que, l'espace d'un instant, quelque chose de pointu comme une arête lui déchira les cordes vocales. Il darda des yeux hagards partout sur la pente, y cherchant la tache brun clair de la main qu'elle devait agiter, le mouvement qu'elle faisait pour se redresser, cherchant aussi, Dieu le lui pardonne, d'éventuelles éclaboussures de sang frais sur la basane usée des roches. Et il se demanda ce qu'il ferait, si c'était cette dernière recherche qui se trouvait satisfaite, ou si son regard tombait sur un revolver frappé au seau de dents acérées planté dans le tendre bois de santal des crosses. Pareille découverte aurait eu de quoi le faire basculer dans l'hystérie, voire dans la démence. Mais ses yeux n'en poursuivaient pas moins leur quête. Qui s'avéra vaine, tout autant que celle de ses oreilles qui ne captèrent aucun cri, même ténue en réponse à ses appels. Le pistolero en avait profité pour examiner la porte. Il s'était attendu à n'y voir qu'un mot, celui prononcé par l'homme en noir retournant la cinquième lame de son tarot dans le poussiéreux Golgotha où ils avaient tenu palabre. « Mort », avait dit Walter. « Mais pas pour toi, pistolero. » Il n'y avait pas qu'un mot sur la porte. Mais deux, et ni l'un ni l'autre n'était le mot « mort ». Il relut l'inscription, ses lèvres dessinant en silence chaque syllabe. « Le pousseur ». Le sens en est pourtant la mort, songea-t-il, le sachant, mais sans savoir comment. Ce qui le fit se retourner fut d'entendre la voix d'Eddie lui venir de plus loin. Le jeune homme escaladait déjà la première colline en continuant de crier le nom d'Odette. À un moment, il envisagea de le laisser faire. Eddie avait une chance de la trouver, peut-être même de la trouver vivante, sans blessure grave et toujours aux commandes du corps qu'elle partageait avec l'autre. Il supposait qu'Eddie et elle n'étaient peut-être pas sans avoir vécu ici quelque chose ensemble, que l'amour du jeune homme pour Odetta et celui d'Odetta pour le jeune homme étaient susceptibles d'étouffer la face ténébreuse qui se donnait à elle-même le nom de Detta Walker. Oui, entre ces deux forces de lumière, il était parfaitement possible que Detta s'étiola jusqu'à en mourir. Romantique dans sa rudesse, Roland avait également le réalisme de savoir que l'amour triomphait parfois de tout. Et lui, maintenant, où en était-il? Même s'il parvenait à ramener du monde d'Eddie ses cachets qui auparavant l'auraient guéri, en eût-il eu en suffisance? Rien ne prouvait qu'ils en fussent désormais capables, voire qu'ils s'en suivit une quelconque amélioration. Il était beaucoup plus malade que la première fois et se demandait si l'infection n'avait pas atteint un point de non-retour. D'atroces douleurs lui cisaillaient bras et jambes, lui martelaient le crâne, tandis qu'un poids énorme broyait sa poitrine et ses bronches pleines de glaire. Tousser lui mettait le flanc gauche à la torture comme s'il avait des côtes cassées, jusqu'à son oreille gauche qui les lançait. « Peut-être l'heure était-elle venue d'en finir, se dit-il, de quitter la partie. » Contre pareille éventualité, tout en lui protesta. « Eddie !» cria-t-il, et nul tout ne s'en mêla. Il avait la voix claire et puissante. Eddie se retourna, un pied dans les éboulis, l'autre calé sur une roche en saillie.
« Va !»
lui cria-t-il en réponse avec un curieux geste de la main, un petit mouvement de balancier, signifiant qu'il voulait être débarrassé du pistolero afin de passer aux choses sérieuses, à ce qu'il avait d'important à faire, retrouver Odetta, et la sauver si la situation l'exigeait.
Franchis cette porte et va donc chercher ce dont tu as besoin. Nous serons tous les deux là quand tu reviendras.
J'en doute.
Il faut que je la retrouve.
Eddie regarda Roland et son extrême jeunesse fut dans ce regard, dans sa totale nudité.
Je dis pas ça en l'air. Il le faut.
Je comprends ton amour et les exigences qu'il t'impose, dit le pistolero. Mais cette fois, Eddie, je désire que tu m'accompagnes.
Eddie resta un long moment à le fixer, comme s'il essayait d'ajouter foi à ce qu'il venait d'entendre.
T'accompagner,
finit-il par dire, rêveur.
T'accompagner, Seigneur. Après ça, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. La dernière fois, ta détermination à me laisser derrière était telle que tu prenais le risque de me laisser te trancher la gorge. Et maintenant, tu veux qu'on se risque à laisser je ne sais quelle créature la déchiqueter.
C'est peut-être déjà fait, dit Roland, sachant pertinemment qu'il n'en était rien.
La dame était peut-être blessée, mais il la savait vivante. Et malheureusement, Eddie aussi le savait. 7 à 10 jours de sevrage lui avaient considérablement aiguisé l'esprit. Son doigt se pointa sur la porte.
« Tu sais très bien qu'elle n'est pas morte, sinon ce putain de truc ne serait plus là. À moins que tu n'aies menti en disant que ça ne servait à rien si on n'y était pas tous les trois. »
Eddie essaya de reprendre son ascension, mais le regard du pistolero le cloua sur place.
« Bon, » dit Roland.
Il parlait presque avec plus de douceur qu'il ne l'avait fait en s'adressant, par-delà le visage et les cris haineux de Detta, à l'autre, prisonnière quelque part sous hystérie et stridence.
« Elle n'est pas morte.
Ton explication à son silence ?»« Un de ces félins a pu l'emmener ?»
s'était dit d'une voix faible.
« Ça l'aurait tué. Il en aurait mangé ce qu'il voulait, aurait laissé le reste. Au mieux, ça aurait traîné le cadavre à l'ombre et serait revenu ce soir manger ce que le soleil aurait épargné. Mais alors, la porte ne serait plus là. Et les félins ne sont pas comme les insectes. Il n'en est pas pour paralyser leur proie et tranquillement s'en repaître plus tard. Tu le sais aussi bien que moi.
Peut-être.
Et à un moment, Eddie entendit Odetta lui dire « Tu aurais dû participer au débat, Eddie. » Pensez qu'il repoussa. Est-ce qu'un de ces fauves n'aurait pas pu descendre ? Alors elle aurait essayé de se défendre, mais les 2 premières cartouches ne seraient pas parties. Mais alors pourquoi pas les 4 ou 5 balles suivantes ? Le chat lui saute dessus, et là, juste avant qu'il ne la tue, bang ! Eddie se cogna le poing dans la paume. Il voyait la scène, aurait pu s'en porter témoin. La balle tue l'animal ou le blesse, ou le fait étaler. Qu'est-ce que t'en penses ?
On aurait entendu le coup, suggéra Roland.
Sur le moment, Eddie resta quoi, incapable d'imaginer quoi que ce soit contre l'évidence. Oui, ils auraient entendu. Le premier cri de l'une de ces bestioles leur était parvenu à 20 ou 30 kilomètres de distance. Alors la déflagration d'un pistolet. Il regarda soudain Roland par en dessous. Mais tu as peut-être entendu quelque chose, toi.
Tu as peut-être entendu tirer pendant que je dormais.
Ça t'aurait réveillé.
Pas crevé comme je suis, mec. Quand je dors comme...
Comme un mort, dit le pistolero, la voix toujours aussi douce.
Je connais la sensation.
Alors tu comprends, sauf que ce n'est peut-être pas mort.
Cette nuit, quand le chat a hurlé, tu t'es réveillé et tu étais debout en une seconde.
Tant tu te fais du souci pour elle. Il n'y a pas eu de coup de feu. Ça aussi, tu le sais. Tu n'aurais pas pu ne pas entendre à cause de ce souci que tu te fais pour elle.
Donc elle a peut-être réussi à l'assommer avec une pierre !
Hurla Eddie.
Comment je le saurais en restant planté là à discuter avec toi au lieu d'aller voir ce qu'il en est ? Imagine qu'elle baigne dans son sang quelque part, blessée, et qui sait, mourante. Ça te plairait que je franchisse avec toi cette porte et qu'elle y passe pendant qu'on est de l'autre côté ? Ça te plairait de te retourner, de voir cette porte, de te retourner une deuxième fois et de ne plus la voir comme si elle n'avait jamais été là parce qu'une des trois personnes qui l'a dotée d'existence n'est plus ? Et que toi, tu te retrouves piégé dans mon monde au lieu que ce soit le contraire ?
Il était hors d'haleine, foudroyait le pistolero du regard, poing crispé.
Roland sentait monter en lui une exaspération lasse. Quelqu'un, Cort peut-être, mais il semblait plutôt que c'était son père, avait eu un dicton. Autant chercher à boire l'eau de l'océan à la petite cuillère que de vouloir discuter avec un amoureux. S'il était besoin d'attester la justesse du proverbe, la preuve en était là, qu'il lui tenait tête, véritable défi. « Continue, disait-il, par sa seule posture. J'ai de quoi répondre à chacun de tes arguments. »
C'est pas forcément un chat qui lui est tombé dessus,
disait-il à présent, sur le mode ordinaire. Tu es peut-être dans ton monde, mais je ne crois pas que tu connaisses cette région plus que moi, Bornéo. Tu n'as aucune idée de ce qui peut rôder dans ces collines. Ça pourrait bien être un singe ou quelque chose comme ça qui se serait emparé d'elle.
On s'est emparé d'elle, je suis d'accord. Dieu soit loué, ta maladie t'a pas ôté tout sens comme est ce on. Nous savons qui c'est, l'un comme l'autre. Tête à Walker. C'est elle qui s'est emparée de la dame. Elle, Detta Walker.
Eddie ouvrit la bouche, mais l'espace d'un instant, quelques secondes en fait, mais suffisantes pour qu'ils prissent l'un et l'autre conscience de l'évidente vérité, l'inexorable expression sur les traits du pistolero réduisit les arguments d'Eddie au silence.
14. Ça ne s'est pas nécessairement passé ainsi.
Approche-toi. Si on doit parler, parlons. Mais je ne tiens pas à brailler pour couvrir le fracas des vagues. J'ai chaque fois l'impression de m'arracher un bout de poumon.
Mère grand, comme tu as de grands yeux, lança Eddie sans bouger d'un pouce.
Qu'est-ce que tu me racontes ?
Un conte de fées.
Le jeune homme consentit à redescendre, mais sur 4 mètres, pas plus.
Et c'est le genre de littérature qu'il te faut si t'espères m'attirer assez près de ce fauteuil.
Assez près pour quoi faire ? Cria Roland. Je ne comprends pas, ajouta-t-il alors qu'il comprenait parfaitement.
Un 0,5 kilomètre à l'est de l'endroit où ils étaient et les surplombant d'environ 150 mètres, des yeux noirs, aussi débordants d'intelligence que dénués de pitié, observaient la scène. Impossible d'entendre ce que disaient les deux hommes. Le vent, les vagues et le ressac attelé au creusement de son tunnel y veillaient. Mais Detta n'avait nul besoin de distinguer des mots dans leurs cris pour savoir de quoi ils parlaient. De même qu'elle pouvait se passer de jumelles pour constater qu'il n'était plus question de donner au vraiment méchant un autre nom que celui de vraiment malade, et que si le vraiment méchant était peut-être disposé à consacrer quelques jours, voire quelques semaines, à torturer une infirme de couleur, les occasions de se divertir devaient être assez rares dans le secteur et en juger par le décor. À son avis, le vraiment méchant n'avait plus qu'une envie, tirer d'ici son cul blanc. Prendre cette porte magique et la déménager vite fait. Mais avant ça, il n'avait trimballé aucun cul d'aucune sorte. Avant ça, il n'avait rien eu à déménager, vite ou en prenant son temps. Avant ça, le vraiment méchant n'avait été nulle part sinon à l'intérieur de sa tête à elle. Elle n'aimait pas trop penser à la manière dont ça s'était passé, à ce qu'elle avait ressenti, à la facilité avec laquelle il avait triomphé de ses tentatives enragées pour s'arracher du crâne cette présence et reprendre le contrôle. Horrible ! C'était un souvenir horrible. Et ce qui le rendait pire encore, c'était l'absence de compréhension qu'elle en avait. Cette terreur, quelle en était l'origine au juste ? Ce n'était pas simplement l'intrusion qui la dérangeait, et cela, justement, ne laissait pas d'être inquiétant.
Peut-être aurait-elle pu comprendre si elle avait porté sur elle un regard plus attentif. Elle en avait conscience, mais s'y refusait. Un tel examen risquait de l'entraîner dans ce genre d'endroit redouté par les marins du temps passé. Cet endroit qui n'est ni plus ni moins que l'extrême bord du monde, là où les cartographes avaient déroulé un phylactère portant pour légende « Ici, l'on trouve moult serpents ».
Ce qu'il y avait dit d'eux à être envahi par le vraiment méchant avait été l'impression d'éprouver une sensation familière, comme si ce fait pourtant surprenant s'était déjà produit auparavant. Et pas qu'une fois, plusieurs. Mais, terrifié ou pas, Detta n'avait pas cédé à la panique. Elle avait continué d'observer tout en se battant, et elle se revoyait regardant par cette porte face à laquelle ses mains, mues par cette présence en elle, venaient de la placer. Elle se souvenait y avoir vu le corps du vraiment méchant, étalé sur le sable, et l'autre accroupi à côté, un couteau à la main. Ah, si cet Eddy avait pu plonger sa lame dans la gorge du vraiment méchant, c'eût été mieux que quand on tue le cochon, mille fois mieux. Il ne l'avait pas fait. Dommage. Mais Detta n'en avait pas moins vu en cet instant le corps du vraiment méchant. Corps était le mot, car bien qu'il respirât, c'était une chose sans valeur, comme un sac qu'un débile aurait rempli de graines ou de fanes de maïs. Que l'esprit de Detta fût répugnant comme le trou du cul d'un rat ne l'empêchait pas d'être vif et acéré, à un plus haut degré même que celui d'Eddy. Le vraiment méchant avait pété le feu dans le temps, mais plus maintenant. Il sait que je suis là-haut et n'a qu'une idée staillée avant que je ne descende lui cramer le cul. Son petit copain, c'est pas pareil. Lui, il a encore de l'énergie à prendre. Et ça lui irait de me faire encore un peu chier. La envie de monter, se taper la moricaude, comme si le vraiment méchant n'était pas d'accord. Garanti. Une négresse qui a pas de jambes, il doit se dire, elle a pas de taille à lutter contre un grand gaillard comme moi. Pas envie de foutre le camp, donc. Envie de l'attaquer, je te pétasse. Lui coller un ou deux coups d'arbalète, et après ça, on pouvait s'en aller où tu veux. Oui. C'est ça qu'il pense. Et c'est bien. Ouais, c'est rudement bien, fromage blanc. Tu peux continuer de penser que tu vas tringler Detta Walker et juste monter là-haut dans ses doves et faire un essai. Tu vas t'apercevoir en me foutant ton petit zob merdique dans ma chatte que t'as tiré le bon numéro. Ouais, tu vas t'en apercevoir.
Mais un bruit l'attira du trou à ras de ses pensées. Un bruit qui domina sans peine le fracas du ressac et les sifflements du vent, la monumentale déflagration d'un revolver. 15.
Je pense que tu comprends mieux que tu ne veux l'admettre, dit Eddy. Vachement mieux. Tu voudrais que je m'approche assez pour que tu puisses m'attraper. Voilà ce que je pense. M'attraper et me pousser là-dedans par surprise.
Il montra la porte d'un signe de tête sans lâcher des yeux le pistolero et ajouta, ignorant qu'à quelques mètres de là, quelqu'un pensait exactement la même chose.
« Je sais que t'es malade, mais je te vois très bien faire semblant d'être beaucoup plus faible que tu ne l'es en réalité. Ce serait tout à fait ton genre de te planquer à l'affût dans les hautes herbes. »«
C'est mon genre, » reconnut le pistolero sans sourire. « Mais ce n'est pas ce que je suis en train de faire. »
Il le faisait quand même. Rien qu'un peu, mais quand même.
À part ça, t'en mourras pas de redescendre encore de quelques pas. Je vais plus pouvoir brailler ainsi très longtemps.
Comme pour en donner la preuve, sa voix se fit coassement de grenouille sur la dernière syllabe.
Et je tiens à ce que tu y réfléchisses avant de faire ce que t'as envie de faire. Si je ne peux pas te convaincre de m'accompagner, donne-moi une chance de te mettre sur tes gardes. Une fois de plus.
Pour l'amour de ta chère tour, n'est-ce pas ?
Ricana Eddy, qui ne s'en laissa pas moins glisser sur la moitié de la pente, ses tennis éculés soulevant des éboulis et des nuages de poussière ocre. Pour ma chère tour, comme tu dis, et pour ta chère petite santé, sans parler de ta chère existence.
Il sortit le revolver qu'il avait gardé, le contempla, son expression à la fois triste et insolite.
« Si tu crois me faire peur avec cet engin ?»«
Loin de moi cette pensée. Tu sais très bien que je ne peux pas te tirer dessus, Eddie. Mais je pense que tu as besoin de toucher du doigt combien les choses ont changé. Que tu mesures à quel point la situation n'est plus du tout la même.
Roland leva l'arme, canon braqué, non vers Eddie, mais vers la vide immensité de l'océan. Son pouce amena le chien au bandé. Eddie se banda lui-même en prévision du vacarme. Se banda pour rien. Seul un clic lui parvint. Roland réarma. Le barillet tourna. Il pressa de nouveau la détente et de nouveau il n'y eut qu'un clic.
« Te casse pas !» lui dit le jeune homme. « Là d'où je viens, tu te serais fait jeter de l'armée à la première balle refusant de partir. À ta place !»
Mais le violent « kblam » du revolver coupa la fin du mot non moins nettement que les brindilles des arbres sur lesquels le pistolero s'était exercé au tir du temps de sa formation. Eddie sursauta. Le constant « riiii » des insectes s'interrompit momentanément, attendit pour reprendre, et dans un canon timide, que Roland eut posé l'arme sur ses genoux.
Et qu'est-ce que ça prouve?
Tout dépend, je suppose, de ce que tu vas bien vouloir écouter et de ce que de toute manière tu te refuses à entendre, rétorqua Roland un tantinet cinglant. C'est d'avoir censé prouver que toutes ces cartouches ne sont pas bonnes à jeter. Mais aussi, et surtout, cela suggère fortement qu'une ou plusieurs, sinon toutes les balles du revolver que tu as donné à Odetta sont susceptibles de partir.
Merde. Eddie réfléchit. En quel honneur, au fait?
Parce que j'avais chargé l'autre, celui que je viens d'essayer, avec des cartouches prises sur l'arrière des ceinturons. Des cartouches qui, en d'autres termes, avaient mariné dans la flotte. J'ai fait ça pour passer le temps, pendant que tu étais parti. Ne va pas t'imaginer que charger un pistolet me prenne des siècles, même avec deux doigts en moins.
Roland se permit un petit rire et dut le regretter quand ça se transforma en tout qu'il musela d'un point restreint.
Mais, après avoir tenté de tirer des cartouches humides, il te faut ouvrir ton arme et la nettoyer. Ouvrez la machine et nettoyez-la, bande d'asticots! C'est la première chose que Cort, notre maître, nous faisait rentrer dans le crâne.
Je n'avais aucune idée du temps que j'allais mettre à ouvrir mon revolver, à le nettoyer puis à le remonter avec seulement une main et demie. Mais je me suis dit que si je comptais survivre, ce dont j'ai la ferme intention, Eddie, je ferais mieux d'en avoir une. Voir le temps que ça me prend et chercher ensuite les moyens d'améliorer ce temps. Tu ne crois pas? Allez, approche-toi, Eddie, redescends un peu pour l'amour de ton père.
C'est pour mieux te regarder, mon enfant, lança Eddie qui n'en fit pas moins deux autres pas vers Roland. Deux pas, mais pas plus.
Quand la première balle que j'ai tirée est partie, j'ai failli faire dans mon froc. Enchaîna le pistolero. De nouveau, il éclata de rire. Eddie en fut secoué. Il le découvrait au bord du délire.
La première, et crois-moi si je te dis que c'était bien la dernière chose à laquelle je m'attendais.
Eddie s'efforça de déterminer si Roland mentait, si l'histoire du pistolet était ou non un mensonge, si son pitoyable état n'en était pas un de plus. L'animal était malade, pour sûr. Mais l'était-il à ce point? Ça, Eddie n'en savait rien. S'il s'agissait d'un rôle de composition, l'acteur était prodigieux. Pareil pour les revolvers. Comment aurait-il su? Tout au plus avait-il tiré trois fois au pistolet dans toute sa vie, avant de se retrouver sous un feu croisé chez Balazar. Son frère aurait peut-être été de bon conseil, mais Henry était mort. Pensée qui, une fois de plus, et toujours à sa grande surprise, ne manqua pas de raviver son chagrin.
Aucune autre n'est partie, poursuivit Roland. J'ai donc nettoyé la machine, l'ai rechargée et tiré un nouveau tour de barillet. Cette fois, j'y avais mis des cartouches venant d'alvéoles plus proches de la boucle des ceinturons et qui couraient un peu moins le risque d'avoir pris l'eau. Pour te donner un repère, c'est avec les premières en partant des boucles que nous avons abattu les homards, avec celle que je savais parfaitement sèche. » Il s'interrompit pour tousser dans sa main, puis reprit. Lors de ce deuxième essai, deux coups sont partis. J'ai rouvert mon arme, l'ai renettoyée, en ai regarni le barillet, et n'y ai plus touché jusqu'à maintenant où tu viens de me voir pressé par trois fois la détente. Il eut un petit sourire là. Tu sais, au bout de deux crics, je me suis dit que ça serait bien ma chance si cette fois je n'avais chargé que des balles mouillées. Ma démonstration en aurait souffert. Tu ne penses pas ? Vraiment, Eddie, ne pourrais-tu te rapprocher ?
Effectivement, elle n'aurait pas été très convaincante, dit le jeune homme, et pour répondre à ta deuxième question, je ne crois pas avoir à m'approcher plus.
Maintenant, quelle leçon suis-je censé tirer de tout ça, Roland ?
Le pistolero le regarda comme s'il était en présence du dernier des idiots. En t'envoyant ici, je ne t'envoyais pas à la mort, tu sais. J'ai fait en sorte que ni toi ni elle ne risquiez de mourir. Grand Dieu, Eddie, qu'as-tu fait de ta cervelle ? C'est un pistolet parfaitement fiable qu'elle a en main.
Ses yeux s'étrécirent, examinant Eddie.
Elle est quelque part dans ces collines. Tu te figures pouvoir retrouver sa trace, mais tu n'as aucune chance si le terrain est aussi rocheux qu'il le paraît d'ici. Elle est là-haut. Et elle t'attend, mais c'est pas Odetta. C'est Detta, tapis là-haut avec un revolver chargé de balles qui sont probablement presque toutes bonnes. Si je te laisse monter à sa recherche, tu vas te retrouver mort avant de t'en apercevoir.
Un nouvel accès de toux le secoua. Eddie regarda fixement l'homme qui toussait, accroché au bras du fauteuil roulant, cependant que les vagues pilonnaient la grève, que le vent modulait sa note insensée. Il finit par s'entendre dire
« T'as très bien pu garder pour cette démonstration une cartouche dont tu étais sûr. Je t'en sens parfaitement capable. »
Et c'était la vérité, il le sentait en fait capable de n'importe quoi. Pour sa tour. Pour sa putain de tour. Et la perversité d'avoir logé cette bonne cartouche dans la troisième alvéole. D'avoir ainsi donné à la démonstration bidon sa touche de réalisme, le petit détail qui vous oblige à y croire.
Il y a une expression chez moi. Ce type serait fichu de vendre des frigos aux Esquimaux. Voilà ce qu'elle dit, cette expression.
Et elle signifie
que le type en question est un baratineur de première.
Le pistolero le regarda longuement et hocha la tête. Tu es décidé à rester ? Bon. Sache toutefois qu'en tant que détain, elle est bien plus à l'abri de quelque forme de vie sauvage en tant les parages qu'elle ne l'aurait été en tant qu'Odetta. Et que toi, tu serais plus à l'abri d'elle, du moins pour l'heure, si tu m'accompagnais. Mais je vois ce qu'il en est. Ça ne me plaît pas, mais je n'ai pas l'intention de perdre mon temps à discuter avec un insensé.
Dois-je en conclure, demanda poliment Eddie, que personne n'a jamais tenté de discuter avec toi sur cette tour sombre que tu as un si grand désir d'atteindre.
De nouveau ce sourire-là. Bon nombre, au contraire. Et c'est ce qui me fait dire que tu ne changeras pas d'avis, je suppose. Un fou sait reconnaître ses pairs. De toute façon, je suis trop faible pour monter t'attraper. Tu es manifestement trop méfiant pour descendre à ma portée, et je n'ai plus le temps de te faire entendre raison. Je ne puis qu'y aller en espérant que tout se passera au mieux. Mais, avant de partir, je tiens à te répéter une dernière fois. Reste sur tes gardes. Puis, Roland fit quelque chose qui rendit Eddie honteux de ses doutes, sans pour autant le faire revenir le moins du monde sur sa décision. Il bascula le barillet en position ouverte d'un coup de poignet expert, le vida de toutes ses cartouches et le remplaça par des neuves qu'il prit juste de part et d'autre des boucles de ceinturon. Un autre mouvement sec du poignet renvoya le barillet en position. « Pas le temps de nettoyer la machine, dit-il, mais je crois que ça ira. Maintenant, attrape et tâche de ne pas le laisser tomber. Ne salis pas la machine plus qu'elle ne l'est. Il n'y en a plus trop dans notre monde qui reste en état de marche. » Il lança le revolver. Dans la fébrilité causée par l'angoisse, Eddie faillit le rater. Puis l'arme fut à l'abri de toute atteinte dans le ceinturon de son jean. Le pistolero s'extirpa du fauteuil, manqua s'étaler par terre à la renverse quand l'engin se déroba sous ses bras. Puis il s'avança, chancelant, vers la porte. Sa main se posa sur la poignée et la tourna sans effort. Eddie ne vit rien de la scène sur laquelle s'ouvrait la porte, mais il y perçut, étouffé, le bruit de la circulation. Roland se retourna une dernière fois vers Eddie. Dans son visage d'une pâleur mortelle, ses yeux de bombardier étaient d'un bleu étincelant. 16. Détta, dans sa cachette, ne perdait rien du spectacle. Elle aussi avait des étincelles dans les yeux. C'était la haine qui les faisait briller, une haine avide. 17.
N'oublie pas de rester sur tes gardes, Eddie, répéta le pistolero d'une voix rauque, puis il franchit le seuil.
Son corps s'y affaissa comme s'il avait cogné dans un mur de pierre au lieu d'aborder un espace vide. Eddie fut pris du désir presque insatiable de se ruer jusqu'à la porte pour voir où et sur quand elle s'ouvrait. Mais il s'en détourna et porta son regard vers les collines, cependant que sa main se posait sur la crosse du revolver.
« Je tiens à te le répéter une dernière fois. »
Soudain, alors que ses yeux balayaient ce désert de roches fauves, Eddie eut peur.
« Reste sur tes gardes. »
Rien ne bougeait là-haut. Rien qu'il pût voir, en tout cas. Il n'en sentait pas moins sa présence. Non celle d'Odetta. Roland ne s'était pas trompé. C'était la présence de Detta qu'il sentait. Il déglutit à nouveau ce clic perceptible dans sa gorge.
« Sur mes gardes. »
Oui, mais de sa vie entière, il avait été assailli par un tel besoin de dormir. Le sommeil allait s'emparer de lui bientôt, et s'il ne s'y abandonnait pas, consentant, le sommeil allait le violer. Et quand il serait endormi, Detta descendrait.
Detta.
Il combattit cette lassitude, promena sur l'immobilité des collines des yeux qu'il sentait lourds et turgescents, se demanda combien de temps Roland mettrait pour ramener son troisième atout, le pousseur, quel qu'il fût.
« Odetta ! »
cria-t-il sans grand espoir. Il n'y eut que le silence pour lui répondre, et pour lui commença le temps de l'attente.